Troisième partie, chapitre 6. Il faut d'ailleurs reconnaître que cette subtilité des hommes politiques, qui me servit à m'expliquer le milieu Guermantes et plus tard d'autres milieux, n'est que la perversion d'une certaine finesse d'interprétation, souvent désignée par « lire entre les lignes ». Si dans les assemblées, il y a absurdité par perversion de cette finesse, il y a stupidité par manque de cette finesse dans le public, qui prend tout à la lettre, qui ne soupçonne pas une révocation quand un haut dignitaire est relevé de ses fonctions, sur sa demande, et qui se dit « il n'est pas révoqué, puisque c'est lui qui l'a demandé ». Une défaite quand les Russes, par un mouvement stratégique, se replient devant les Japonais sur des positions plus fortes et préparées à l'avance. Un refus quand une province ayant demandé l'indépendance à l'empereur d'Allemagne, celui-ci lui accorde l'autonomie religieuse. Il est possible d'ailleurs, pour revenir à ces séances de la Chambre, que, quand elles s'ouvrent, les députés eux-mêmes soient pareils à l'homme de bon sens qui en lira le compte-rendu. Apprenant que des ouvriers en grève ont envoyé leurs délégués auprès d'un ministre, peut-être se demandent-ils naïvement « Ah, voyons, que se sont-ils dit? Espérons que tout s'est arrangé. » Au moment où le ministre monte à la tribune dans un profond silence qui déjà met en goût d'émotions artificielles. Les premiers mots du ministre « Je n'ai pas besoin de dire à la Chambre que j'ai un trop haut sentiment des devoirs du gouvernement pour avoir reçu cette délégation, dont l'autorité de ma charge n'avait pas à connaître. » Sont un coup de théâtre, car c'était la seule hypothèse que le bon sens des députés n'eût pas faite. Mais justement, parce que c'est un coup de théâtre, il est accueilli par de tels applaudissements que ce n'est qu'au bout de quelques minutes que peut se faire entendre le ministre. Le ministre qui recevra, en retournant à son banc, les félicitations de ses collègues. On est aussi ému que le jour où il a négligé d'inviter à une grande fête officielle le président du conseil municipal qui lui faisait opposition. Et on déclare que, dans l'une comme dans l'autre circonstance, il a agi en véritable homme d'État. Monsieur de Guermantes, à cette époque de sa vie, avait, au grand scandale des courvoisiers, fait souvent partie des collègues qui venaient féliciter le ministre. J'ai entendu plus tard raconter que, même à un moment où il joua un assez grand rôle à la Chambre et où on songeait à lui pour un ministère ou une ambassade, il était, quand un ami venait lui demander un service, infiniment plus simple, jouait politiquement beaucoup moins au grand personnage politique que tout autre qui n'eût pas été le duc de Guermantes. Car s'il disait que la noblesse était peu de chose, qu'il considérait ses collègues comme des égaux, il n'en pensait pas un mot. Il recherchait, feignait d'estimer, mais méprisait les situations politiques. Et comme il restait pour lui-même monsieur de Guermantes, elle ne mettait pas autour de sa personne cet empesé des grands emplois qui rend d'autres inabordables. Et par là, son orgueil protégeait contre toute atteinte non pas seulement ses façons d'une familiarité affichée, mais ce qu'il pouvait avoir de simplicité véritable. Pour en revenir à ses décisions artificielles et émouvantes, comme celles des politiciens, Madame de Guermantes ne déconcertait pas moins les Guermantes, les courvoisiers, tout le faubourg, et plus que personne, la princesse de Parme. Par des décrets inattendus, sous lesquels on sentait des principes qui frappaient d'autant plus qu'on s'en était moins avisé. Si le nouveau ministre de Grèce donnait un bal travesti, chacun choisissait un costume et on se demandait quel serait celui de la duchesse. L'une pensait qu'elle voudrait être en duchesse de Bourgogne, une autre donnait comme probable le travestissement en princesse de Dujabar, une troisième en psyché. Enfin, une courvoisier ayant demandé « En quoi te mettras-tu, Oriane ? Provoquait la seule réponse à quoi l'on n'eût pas pensé. Mais en rien du tout. Et qui faisait beaucoup marcher les langues, comme dévoilant l'opinion d'Oriane sur la véritable position mondaine du nouveau ministre de Grèce, et sur la conduite à tenir à son égard, c'est-à-dire l'opinion qu'on aurait dû prévoir, à savoir qu'une duchesse n'avait pas à se rendre au bal travesti de ce nouveau ministre. « Je ne crois pas qu'il y ait nécessité à aller chez le ministre de Grèce, que je ne connais pas. Je ne suis pas grecque. Pourquoi irais-je là-bas? Je n'ai rien à y faire, » disait la duchesse. « Mais tout le monde y va. Il paraît que ce sera charmant, » s'écriait madame de Galardon. « Mais c'est charmant aussi de rester au coin de son feu, » répondait madame de Guermantes. Les courvoisiers n'en revenaient pas, mais les Guermantes, sans imiter, approuvaient. Naturellement, tout le monde n'est pas en position, comme Oriane, de rompre avec tous les usages. Mais d'un côté, on ne peut pas dire qu'elle ait tort de vouloir montrer que nous exagérons en nous mettant à plat ventre devant ces étrangers, dont on ne sait pas toujours d'où ils viennent. Naturellement, sachant les commentaires que ne manquerait pas de provoquer l'une ou l'autre attitude, madame de Guermantes avait autant de plaisir à entrer dans une fête où on n'osait pas compter sur elle, qu'à rester chez soi ou à passer la soirée avec son mari au théâtre, le soir d'une fête où tout le monde allait. Ou bien, quand on pensait qu'elle éclipserait les plus beaux diamants par un diadème historique, d'entrer sans un seul bijou, et dans une autre tenue que celle qu'on croyait, à tort de rigueur. Bien qu'elle fût anti-dreyfusarde, tout en croyant à l'innocence de Dreyfus, de même qu'elle passait sa vie dans le monde, tout en ne croyant qu'aux idées, elle avait produit une énorme sensation à une soirée chez la princesse de Ligne, d'abord en restant assise, quand toutes les dames s'étaient levées à l'entrée du général Mercier, et ensuite en se levant et en demandant ostensiblement ses gens quand un orateur nationaliste avait commencé une conférence, montrant par là qu'elle ne trouvait pas que le monde fût fait pour parler politique. Toutes les têtes s'étaient tournées vers elle à un concert du Vendredi Saint où, quoique voltairienne, elle n'était pas restée parce qu'elle avait trouvé indécent qu'on mît en scène le Christ. On sait ce qu'est, même pour les plus grandes mondaines, le moment de l'année où les fêtes commencent, au point que la marquise d'Amoncourt, laquelle, par besoin de parler, manie psychologique et aussi manque de sensibilité, finissait souvent par dire des sottises, avait pu répondre à quelqu'un qui était venu la condoléancer sur la mort de son père, monsieur de Montmorency. C'est peut-être encore plus triste qu'il vous arrive un chagrin pareil au moment où on a à sa glace des centaines de cartes d'invitation. Eh bien, à ce moment de l'année, quand on invitait à dîner la duchesse de Guermantes, en se pressant pour qu'elle ne fût pas déjà retenue, elle refusait, pour la seule raison à laquelle un mondain n'eût jamais pensé. Elle allait partir en croisière pour visiter les fjords de la Norvège, qui l'intéressait. Les gens du monde en furent stupéfaits, et sans se soucier d'imiter la duchesse, éprouvèrent pourtant de son action l'espèce de soulagement qu'on a dans Kant quand, après la démonstration la plus rigoureuse du déterminisme, on découvre qu'au-dessus du monde de la nécessité, il y a celui de la liberté. Toute invention dont on ne s'était jamais avisé excite l'esprit, même des gens qui ne savent pas en profiter. Celle de la navigation à vapeur était peu de chose auprès d'user de la navigation à vapeur à l'époque sédentaire de la saison. L'idée qu'on pouvait volontairement renoncer à 100 dîners ou déjeuners en ville, au double de thé, au triple de soirée, au plus brillant lundi de l'opéra et mardi des Français, pour aller visiter les fjords de la Norvège, ne parut pas au courvoisier plus explicable que 20 000 lieues sous les mers. Mais leur communiqua la même sensation d'indépendance et de charme. Aussi, n'y avait-il pas de jour où l'on entendit dire, non seulement « Vous connaissez le dernier mot d'Orian ?» mais « Vous savez la dernière d'Orian ?» Et de la « dernière d'Orian » comme du dernier mot d'Orian, on répétait « C'est bien d'Orian !» C'est de l'Orian tout pur. La dernière d'Orian, c'était, par exemple, qu'ayant à répondre au nom d'une société patriotique au cardinal X, évêque de Mâcon, que d'habitude M. de Guermantes, quand il parlait de lui, appelait M. de Mâcon, parce que le duc trouvait cela vieille France, comme chacun cherchait à imaginer comment la lettre serait tournée et trouvait bien les premiers mots, « Éminence » ou « Monseigneur », mais était embarrassé devant le reste. La lettre d'Orian, à l'étonnement de tous, débutait par « Monsieur le cardinal » à cause d'un vieil usage académique, ou par « Mon cousin », ce terme étant usité entre les princes de l'Église, les Guermantes et les souverains, qui demandaient à Dieu d'avoir les uns et les autres dans sa sainte et digne garde. Pour qu'on parlât d'une dernière d'Orian, il suffisait qu'à une représentation où il y avait tout Paris et où on jouait une fort jolie pièce, comme on cherchait Madame de Guermantes dans la loge de la princesse de Parme, de la princesse de Guermantes, de tant d'autres qu'il avait invités, on la trouva seule, en noir, avec un tout petit chapeau, à un fauteuil où elle était arrivée pour le lever du rideau. On entend mieux pour une pièce qui en vaut la peine, expliquait-elle, au scandale des courvoisiers et à l'émerveillement des Guermantes et de la princesse de Parme, qui découvraient subitement que le genre d'entendre le commencement d'une pièce était plus nouveau, marquait plus d'originalité et d'intelligence, ce qui n'était pas pour étonner de la part d'Orian. Que d'arriver pour le dernier acte après un grand dîner et une apparition dans une soirée. Tels étaient les différents genres d'étonnement auxquels la princesse de Parme savait qu'elle pouvait se préparer, si elle posait une question littéraire ou mondaine à Madame de Guermantes, et qui faisait que, pendant ses dîners chez la duchesse, l'altesse ne s'aventurait sur le moindre sujet qu'avec la prudence inquiète et ravie de la baigneuse émergente entre deux lames. Parmi les éléments qui, absents des deux ou trois autres salons à peu près équivalents qui étaient à la tête du faubourg Saint-Germain, différenciaient d'eux le salon de la duchesse de Guermantes, comme Leibniz admet que chaque monade, en reflétant tout l'univers, y ajoute quelque chose de particulier. Un des moins sympathiques était habituellement fourni par une ou deux très belles femmes qui n'avaient de titre à être là que leur beauté, l'usage qu'avait fait d'elles M. de Guermantes, et desquelles la présence révélait aussitôt, comme dans d'autres salons, tels tableaux inattendus, que dans celui-ci le mari était un ardent appréciateur des grâces féminines. Elles se ressemblaient toutes un peu, car le duc avait le goût des femmes grandes, à la fois majestueuses et désinvoltes, d'un genre intermédiaire entre la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. Souvent blonde, rarement brune, quelquefois rousse, comme la plus récente, laquelle était à ce dîner, cette vicomtesse d'Arpajon, qu'il avait tant aimée, qu'il la força longtemps à lui envoyer jusqu'à 10 télégrammes par jour, ce qui agaçait un peu la duchesse, correspondait avec elle par pigeon voyageur quand il était à Guermantes, et de laquelle, enfin, il avait été pendant longtemps si incapable de se passer, qu'un hiver qu'il avait dû passer à Parme, il revenait chaque semaine à Paris, faisant 2 jours de voyage pour la voir. D'ordinaire, ces belles figurantes avaient été ses maîtresses, mais ne l'étaient plus. C'était le cas pour Madame d'Arpajon, ou était sur le point de cesser de l'être. Peut-être, cependant, le prestige qu'exerçait sur elle la duchesse et l'espoir d'être reçue dans son salon, quoiqu'elles appartinssent elles-mêmes à des milieux fort aristocratiques mais de second plan, les avait-elles décidées, plus encore que la beauté et la générosité de celui-ci, à céder au désir du duc. D'ailleurs, la duchesse n'eut pas opposé à ce qu'elle pénétrasse chez elle une résistance absolue. Elle savait qu'en plus d'une, elle avait trouvé une alliée, grâce à laquelle elle avait obtenu 1000 choses dont elle avait envie, et que Monsieur de Guermantes refusait impitoyablement à sa femme, tant qu'il n'était pas amoureux d'une autre. Aussi, ce qui expliquait qu'elles ne fussent reçues chez la duchesse que quand leur liaison était déjà fort avancée, tenait plutôt d'abord à ce que le duc, chaque fois qu'il s'était embarqué dans un grand amour, avait cru seulement à une simple passade, en échange de laquelle il estimait que c'était beaucoup que d'être invité chez sa femme. Or, il se trouvait l'offrir pour beaucoup moins, pour un premier baiser, parce que des résistances, sur lesquelles il n'avait pas compté, se produisaient, ou au contraire qu'il n'y avait pas eu de résistance. En amour, souvent, la gratitude, le désir de faire plaisir, font donner au-delà de ce que l'espérance et l'intérêt avaient promis. Mais alors, la réalisation de cette offre était entravée par d'autres circonstances. D'abord, toutes les femmes qui avaient répondu à l'amour de M. de Guermantes, et quelquefois même quand elles ne lui avaient pas encore cédé, avaient été tour à tour séquestrées par lui. Il ne leur permettait plus de voir personne. Il passait auprès d'elles presque toutes ses heures. Il s'occupait de l'éducation de leurs enfants, auxquels quelquefois, si l'on doit en juger plus tard sur de criantes ressemblances, il lui arriva de donner un frère ou une sœur. Puis, si au début de la liaison, la présentation à Madame de Guermantes, nullement envisagée par le duc, avait joué un rôle dans l'esprit de la maîtresse, la liaison elle-même avait transformé les points de vue de cette femme. Le duc n'était plus seulement pour elle le mari de la plus élégante femme de Paris, mais un homme que sa nouvelle maîtresse aimait, un homme aussi qui souvent lui avait donné les moyens et le goût de plus de luxe, et qui avait interverti l'ordre antérieur d'importance des questions de snobisme et des questions d'intérêt. Enfin, quelquefois, une jalousie de tout genre contre Madame de Guermantes animait les maîtresses du duc. Mais ce cas était le plus rare. D'ailleurs, quand le jour de la présentation arrivait enfin, à un moment où elle était d'ordinaire déjà assez indifférente au duc, dont les actions, comme celles de tout le monde, étaient plus souvent commandées par les actions antérieures, dont le mobile premier n'existait plus. Il se trouvait souvent que ça avait été Madame de Guermantes qui avait cherché à recevoir la maîtresse, en qui elle espérait et avait si grand besoin de rencontrer, contre son terrible époux, une précieuse alliée. Ce n'est pas que, sauf à de rares moments, chez lui où, quand la duchesse parlait trop, il laissait échapper des paroles, et surtout des silences qui foudroyaient. Monsieur de Guermantes manqua vis-à-vis de sa femme de ce qu'on appelle les formes. Les gens qui ne les connaissaient pas pouvaient s'y tromper. Quelquefois, à l'automne, entre les courses de Deauville, les eaux et le départ pour Guermantes et les chasses, dans les quelques semaines qu'on passe à Paris, comme la duchesse aimait le café-concert, le duc allait avec elle y passer une soirée. Le public remarquait tout de suite, dans une de ces petites baignoires découvertes où l'on ne tient que deux, cet Hercule en smoking, puisqu'en France, on donne à toute chose plus ou moins britannique le nom qu'elle ne porte pas en Angleterre. Le monocle à l'œil, dans sa grosse mais belle main, à l'annulaire de laquelle brillait un saphir, un gros cigare dont il tirait de temps à autre une bouffée, les regards habituellement tournés vers la scène. Mais quand il les laissait tomber sur le parterre, où il ne connaissait d'ailleurs absolument personne, les émoussant d'un air de douceur, de réserve, de politesse, de considération. Quand un couplet lui semblait drôle et pas trop indécent, le duc se retournait en souriant vers sa femme, partageait avec elle, d'un signe d'intelligence et de bonté, l'innocente gaieté que lui procurait la chanson nouvelle. et les spectateurs pouvaient croire qu'il n'était pas de meilleur mari que lui, ni de personne plus enviable que la duchesse. Cette femme, en dehors de laquelle étaient pour le duc tous les intérêts de la vie, cette femme qu'il n'aimait pas, qu'il n'avait jamais cessé de tromper. Quand la duchesse se trouvait fatiguée, il voyait M. de Guermantes se lever, lui passer lui-même son manteau en arrangeant ses colliers pour qu'il ne se prise pas dans la doublure, et lui frayer un chemin jusqu'à la sortie avec des soins empressés et respectueux qu'elle recevait avec la froideur de la mondaine qui ne voit là que du simple savoir-vivre, et parfois même avec l'amertume un peu ironique de l'épouse désabusée qui n'a plus aucune illusion à perdre. Mais malgré ces dehors, autre partie de cette politesse qui a fait passer les devoirs des profondeurs à la superficie, à une certaine époque déjà ancienne, mais qui dure encore pour ses survivants, la vie de la duchesse était difficile. Monsieur de Guermantes ne redevenait généreux, humain, que pour une nouvelle maîtresse, qui prenait, comme il arrivait le plus souvent, le parti de la duchesse. Celle-ci voyait redevenir possible pour elle des générosités envers des inférieurs, des charités pour les pauvres, même pour elle-même, plus tard, une nouvelle et magnifique automobile. Mais de l'irritation qui naissait d'habitude assez vite pour Madame de Guermantes, des personnes qui lui étaient trop soumises, les maîtresses du duc n'étaient pas exceptées. Bientôt, la duchesse se dégoûtait d'elle. Or, à ce moment aussi, la liaison du duc avec Madame d'Arpajon touchait à sa fin. Une autre maîtresse pointait. Sans doute, l'amour que Monsieur de Guermantes avait eu successivement pour toutes recommençait un jour à se faire sentir. D'abord, cet amour, en mourant, les léguait comme de beaux marbres. Des marbres beaux pour le duc, devenu ainsi partiellement artiste, parce qu'il les avait aimés et était sensible maintenant à des lignes qu'il n'eût pas appréciées sans l'amour. Qui juxtaposait, dans le salon de la duchesse, leurs formes longtemps ennemies, dévorées par les jalousies et les querelles, et enfin réconciliées dans la paix de l'amitié. Puis, cette amitié même était un effet de l'amour qui avait fait remarquer à M. de Guermantes, chez celles qui étaient ses maîtresses, des vertus qui existent chez tout être humain, mais sont perceptibles à la seule volupté, si bien que l'ex-maîtresse, devenue un excellent camarade, qui ferait n'importe quoi pour nous, est un cliché, comme le médecin ou comme le père, qui ne sont pas un médecin ou un père, mais un ami. Mais pendant une période première, la femme que M. de Guermantes commençait à délaisser se plaignait, faisait des scènes, se montrait exigeante, paraissait indiscrète, tracassière. Le duc commençait à la prendre en grippe. Alors, Madame de Guermantes avait lieu de mettre en lumière les défauts vrais ou supposés d'une personne qui l'agaçait. Connue pour bonne, Madame de Guermantes recevait les téléphonages, les confidences, les larmes de la délaissée, et ne s'en plaignait pas. Elle en riait avec son mari, puis avec quelques intimes. Et croyant, par cette pitié qu'elle montrait à l'infortunée, avoir le droit d'être taquine avec elle, en sa présence même. Quoi que celle-ci dit, pourvu que cela pût rentrer dans le cadre du caractère ridicule que le duc et la duchesse lui avaient récemment fabriqué. Madame de Guermantes ne se gênait pas d'échanger avec son mari des regards d'ironique intelligence. Cependant, en se mettant à table, la princesse de Parme se rappela qu'elle voulait inviter à l'opéra la princesse de, et désirant savoir si cela ne serait pas désagréable à Madame de Guermantes, elle chercha à la sonder. À ce moment, entra M. de Crouchy, dont le train, à cause d'un déraillement, avait eu une panne d'une heure. Il s'excusa comme il put. Sa femme, si elle avait été courvoisier, fut morte de honte. Mais Madame de Crouchy n'était pas Guermantes pour des prunes. Comme son mari s'excusait du retard, « Je vois, » dit-elle en prenant la parole, « que même pour les petites choses, être en retard, c'est une tradition dans votre famille. »
« Asseyez-vous, Crouchy, et ne vous laissez pas démonter, » dit le duc.
« Tout en marchant avec mon temps, je suis forcé de reconnaître que la bataille de Waterloo a eu du bon, puisqu'elle a permis la restauration des Bourbons, et encore mieux d'une façon qui les a rendus impopulaires. Mais je vois que vous êtes un véritable Nemrod. »
« J'ai en effet rapporté quelques belles pièces. » « Je me permettrai d'envoyer demain à la duchesse une douzaine de faisans. »
Une idée sembla passer dans les yeux de Madame de Guermantes. Elle insista pour que Monsieur de Crouchy ne prît pas la peine d'envoyer les faisans. Et faisant signe au valet de pied fiancé avec qui j'avais causé en quittant la salle des Elstir, « Poulain, » dit-elle, « vous irez chercher les faisans de Monsieur le Comte et vous les rapporterez de suite. » « Car, n'est-ce pas, Crouchy, vous permettez que je fasse quelques politesses? Nous ne mangerons pas 12 faisans à nous deux, Bazin et moi. »«
Mais après-demain serait assez tôt, » dit Monsieur de Crouchy.
« Non, je préfère demain, » insista la duchesse.
Poulain était devenu blanc. Son rendez-vous avec sa fiancée était manqué. Cela suffisait pour la distraction de la duchesse, qui tenait à ce que tout gardât un air humain.
« Je sais que c'est votre jour de sortie, » dit-elle à Poulain. « Vous n'aurez qu'à changer avec Georges, qui sortira demain et restera après-demain. »
Mais le lendemain, la fiancée de Poulain ne serait pas libre, et il lui était bien égal de sortir. Dès que Poulain eut quitté la pièce, chacun complimenta la duchesse de sa bonté avec ses gens.
« Mais je ne fais qu'être avec eux comme je voudrais qu'on fût avec moi. »«
Justement, ils peuvent dire qu'ils ont chez vous une bonne place. »«
Pas si extraordinaire que ça, mais je crois qu'ils m'aiment bien. »« Celui-là est un peu agaçant parce qu'il est amoureux. »« Il croit devoir prendre des airs mélancoliques. »
À ce moment, Poulain rentra.
« En effet, » dit Monsieur de Crouchy, « il n'a pas l'air d'avoir le sourire. Avec eux, il faut être bon, mais pas trop bon. »«
Je reconnais que je ne suis pas terrible. Dans toute sa journée, il n'aura qu'à aller chercher vos faisans, à rester ici à ne rien faire et à en manger sa part. »«
Beaucoup de gens voudraient être à sa place, » dit Monsieur de Crouchy, « car l'envie est aveugle. »«
Oriane, » dit la princesse de Parme, « j'ai eu l'autre jour la visite de votre cousine de Dicourt. Évidemment, c'est une femme d'une intelligence supérieure. C'est une guermante, c'est tout dire. Mais on dit qu'elle est médisante. »
Le duc attacha sur sa femme un long regard de stupéfaction voulue. Madame de Guermantes se mit à rire. La princesse finit par s'en apercevoir.
« Mais... « Est-ce que vous n'êtes pas de mon avis ?»
demanda-t-elle avec inquiétude.
« Mais madame est trop bonne de s'occuper des mines de Bazin. Allons, Bazin, n'ayez pas l'air d'insinuer du mal de nos parents. »«
Il la trouve trop méchante ?»
demanda vivement la princesse.
« Oh, pas du tout !» répliqua la duchesse. « Je ne sais pas qui a dit à votre Altesse qu'elle était médisante. » C'est au contraire une excellente créature qui n'a jamais dit du mal de personne, ni fait de mal à personne.
« Ah !» dit Madame de Parme soulagée. « Je ne m'en étais pas aperçue non plus. Mais comme je sais qu'il est souvent difficile de ne pas avoir un peu de malice quand on a beaucoup d'esprit, ha ! Cela, par exemple, elle en a encore moins. »«
Moins d'esprit ?» demanda la princesse stupéfaite.
« Voyons, Oriane !» interrompit le duc d'un ton plaintif, en lançant autour de lui, à droite et à gauche, des regards amusés. « Vous entendez que la princesse vous dit que c'est une femme supérieure ?»«
Elle ne l'est pas ?»«
Elle est au moins supérieurement grosse !»«
Ne l'écoutez pas, madame. Il n'est pas sincère. Il est bête comme un...
« Ouah !» dit d'une voix forte et enrouée Madame de Guermantes, qui,
bien plus vieille France encore que le duc quand il n'y tâchait pas, cherchait souvent à l'être, mais d'une manière opposée au genre jabot de dentelle et déliquescent de son mari, et en réalité bien plus fine, par une sorte de prononciation presque paysanne qui avait une âpre et délicieuse saveur terrienne. Mais c'est la meilleure femme du monde. Et puis je ne sais même pas si à ce degré-là cela peut s'appeler de la bêtise. Je ne crois pas que j'aie jamais connu une créature pareille. C'est un cas pour un médecin. Cela a quelque chose de pathologique. C'est une espèce d'innocente, de crétine, de demeurée, comme dans les mélodrames ou comme dans l'Arlésienne. Je me demande toujours, quand elle est ici, si le moment n'est pas venu où son intelligence va s'éveiller, ce qui fait toujours un peu peur. » La princesse s'émerveillait de ces expressions tout en restant stupéfaite du verdict. Elle m'a cité, ainsi que Madame d'Épinay, votre mot sur Taquin le Superbe. C'est délicieux, répondit-elle. Monsieur de Guermantes m'expliqua le mot. J'avais envie de lui dire que son frère, qui prétendait ne pas me connaître, m'attendait le soir même à 11 heures. Mais je n'avais pas demandé à Robert si je pouvais parler de ce rendez-vous. Et, comme le fait que monsieur de Charlus me l'eût presque fixé était en contradiction avec ce qu'il avait dit à la duchesse, je jugeai plus délicat de me taire. « Taquin le Superbe n'est pas mal, » dit monsieur de Guermantes. « Mais madame de Dicourt ne vous a probablement pas raconté un bien plus joli mot qu'Oriane lui a dit l'autre jour, en réponse à une invitation à déjeuner. »« Oh non, dites-le !»« Voyons, Bazin, taisez-vous. D'abord, ce mot est stupide et va me faire juger par la princesse comme encore inférieur à ma cruche de cousine. Et puis, je ne sais pas pourquoi je dis ma cousine, c'est une cousine à Bazin. Elle est tout de même un peu parente avec moi. » Oh ! S'écria la princesse de Parme à la pensée qu'elle pourrait trouver madame de Guermantes bête, et protestant éperdument que rien ne pouvait faire déchoir la duchesse du rang qu'elle occupait dans son admiration. Et puis, nous lui avons déjà retiré les qualités de l'esprit. Comme ce mot tente à lui en dénier certaines du cœur, il me semble inopportun. Dénier, inopportun, comme elle s'exprime bien, dit le duc avec une ironie feinte et pour faire admirer la duchesse. Allons, Bazin, ne vous moquez pas de votre femme. Il faut dire à votre Altesse royale, reprit le duc, que la cousine d'Oriane est supérieure, bonne, grosse, tout ce qu'on voudra, mais n'est pas précisément, comment dirais-je, prodigue. Oui, je sais, elle est très rapiate, interrompit la princesse. Je ne me serais pas permis l'expression, mais vous avez trouvé le mot juste. Cela se traduit dans son train de maison et particulièrement dans la cuisine, qui est excellente, mais mesurée. Cela donne même lieu à des scènes assez comiques, interrompit monsieur de Bréauté. Ainsi, mon cher Bazin, j'ai été passé à Heudicourt un jour où vous étiez attendu, Oriane et vous. On avait fait de somptueux préparatifs. Quand, dans l'après-midi, un valet de pied apporta une dépêche que vous ne viendriez pas. « Cela ne m'étonne pas, » dit la duchesse, qui non seulement était difficile à avoir, mais aimait qu'on le sût. « Votre cousine lit le télégramme, se désole, puis aussitôt, sans perdre la carte, et se disant qu'il ne fallait pas de dépenses inutiles envers un seigneur sans importance comme moi, elle rappelle le valet de pied. « Dites au chef de retirer le poulet !» lui crie-t-elle. Et le soir, je l'ai entendu qui demandait au maître d'hôtel « Eh bien, et les restes du bœuf d'hier, vous ne les servez pas ?»« Du reste, il faut reconnaître que la chair y est parfaite !» dit le duc, qui croyait, en employant cette expression, se montrer ancien régime. « Je ne connais pas de maison où l'on mange mieux. »« Et moins !» interrompit la duchesse.
C'est très sain et très suffisant pour ce qu'on appelle un vulgaire pezzouille comme moi, reprit le duc. On reste sur sa faim.
Ah, si c'est comme cure, c'est évidemment plus hygiénique que fastueux.
D'ailleurs, ce n'est pas tellement bon que cela, ajouta madame de Guermantes, qui n'aimait pas beaucoup qu'on décernât le titre de meilleure table de Paris à une autre qu'à la sienne. Avec ma cousine, il arrive la même chose qu'avec les auteurs constipés, qui pondent tous les 15 ans une pièce en un acte ou un sonnet. C'est ce qu'on appelle des petits chefs-d'œuvre, des riens qui sont des bijoux, en un mot, la chose que j'ai le plus en horreur. La cuisine chez Zénaïde n'est pas mauvaise, mais on la trouverait plus quelconque si elle était moins parcimonieuse. Il y a des choses que son chef fait bien, et puis il y a des choses qu'il rate. J'y ai fait comme partout de très mauvais dîners, seulement ils m'ont fait moins mal qu'ailleurs, parce que l'estomac est au fond plus sensible à la quantité qu'à la qualité.
Enfin, pour finir, conclut le duc, Zénaïde insistait pour qu'Oriane vînt déjeuner. Et comme ma femme n'aime pas beaucoup sortir de chez elle, elle résistait, s'informait si, sous prétexte de repas intimes, on ne l'embarquait pas déloyalement dans un grand tralala, et tâchait vainement de savoir quel convive il y aurait à déjeuner.
« Viens, viens !» insistait Zénaïde en vantant les bonnes choses qu'il y aurait à déjeuner.
« Tu mangeras une purée de marron, je ne te dis que ça !» Et il y aura 7 petites bouchées à la reine.
7 petites bouchées ? S'écria Oriane. Alors, c'est que nous serons au moins 8. Au bout de quelques instants, la princesse, ayant compris, laissa éclater son rire comme un roulement de tonnerre.
Ah, nous serons donc 8. C'est ravissant, comme c'est bien rédigé,
dit-elle, ayant dans un suprême effort retrouvé l'expression dont s'était servie madame d'Épinay, et qui s'appliquait mieux cette fois.
« Oriane, c'est très joli ce que dit la princesse. Elle dit que c'est bien rédigé. »
« Mais, mon ami, vous ne m'apprenez rien. Je sais que la princesse est très spirituelle, » répondit madame de Guermantes, qui goûtait facilement un mot quand à la fois il était prononcé par une altesse et louangeait son propre esprit. « Je suis très fière que madame apprécie mes modestes rédactions. D'ailleurs, je ne me rappelle pas avoir dit cela. Et si je l'ai dit, c'était pour flatter ma cousine, car si elle avait 7 bouchées, les bouches, si j'ose m'exprimer ainsi, eussent dépassé la douzaine. »
Elle possédait tous les manuscrits de monsieur de Bornier, reprit en parlant de madame de Dicourt la princesse, qui voulait tâcher de faire valoir les bonnes raisons qu'elle pouvait avoir de se lier avec elle.
Elle a dû le rêver, je crois qu'elle ne le connaissait même pas, dit la duchesse.
Ce qui est surtout intéressant, c'est que ses correspondances sont de gens à la fois des divers pays, continua la comtesse d'Arpajon, qui, alliée aux principales maisons ducales et même souveraines de l'Europe, était heureuse de le rappeler.
« Mais si, Oriane, dit monsieur de Guermantes non sans intention, vous vous rappelez bien ce dîner où vous aviez monsieur de Bornier comme voisin.
Mais, Bazin, interrompit la duchesse, si vous voulez me dire que j'ai connu monsieur de Bornier, naturellement, il est même venu plusieurs fois pour me voir, mais je n'ai jamais pu me résoudre à l'inviter, parce que j'aurais été obligée chaque fois de faire désinfecter au formol. Quant à ce dîner, je ne me le rappelle que trop bien. Ce n'était pas du tout chez Zénaïde, qui n'a pas vu Bornier de sa vie, et qui doit croire, si on lui parle de la fille de Roland, qu'il s'agit d'une princesse Bonaparte qu'on prétendait fiancer au fils du roi de Grèce.
Non, c'était à l'ambassade d'Autriche. Le charmant Oyo avait cru me faire plaisir en flanquant sur une chaise à côté de moi cet académicien empesté. Je croyais avoir pour voisin un escadron de gendarmes. J'ai été obligée de me boucher le nez, comme je pouvais pendant tout le dîner. Je n'ai osé respirer qu'aux gruyères.
Monsieur de Guermantes, qui avait atteint son but secret, examina à la dérobée sur la figure des convives l'impression produite par le mot de la duchesse.
« Vous parlez de correspondance. Je trouve admirable celle de Gambetta, » dit la duchesse de Guermantes pour montrer qu'elle ne craignait pas de s'intéresser à un prolétaire et à un radical.
Monsieur de Bréauté comprit tout l'esprit de cette audace, regarda autour de lui, d'un œil à la fois éméché et attendri, après quoi il essuya son monocle.
Mon Dieu, c'était bougrement embêtant, la fille de Roland, dit monsieur de Guermantes, avec la satisfaction que lui donnait le sentiment de sa supériorité sur une œuvre à laquelle il s'était tant ennuyé. Peut-être aussi par le suave mari Magnot que nous éprouvons au milieu d'un bon dîner, à nous souvenir d'aussi terribles soirées.
Mais il y avait quelques beaux vers, un sentiment patriotique.
J'insinuais que je n'avais aucune admiration pour monsieur de Bornier.
Ah, vous avez quelque chose à lui reprocher ? Me demanda curieusement le duc, qui croyait toujours, quand on disait du mal d'un homme, que cela devait tenir à un ressentiment personnel, et du bien d'une femme, que c'était le commencement d'une amourette.
« Je vois que vous avez une dent contre lui. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Racontez-nous ça.
Mais si, vous devez avoir quelques cadavres entre vous, puisque vous le dénigrez.
C'est long, la fille de Roland, mais c'est assez senti. »
« Senti est très juste pour un auteur aussi odorant, » interrompit ironiquement madame de Guermantes.
« Si ce pauvre petit s'est jamais trouvé avec lui, il est assez compréhensible qu'il l'ait dans le nez. »
« Je dois du reste avouer à madame, » reprit le duc en s'adressant à la princesse de Parme, « que, fille de Roland à part, en littérature et même en musique, je suis terriblement vieux jeu. Il n'y a pas de si vieux rossignol qui ne me plaise. Vous ne me croiriez peut-être pas, mais le soir, si ma femme se met au piano, il m'arrive de lui demander un vieil air d'Aubert, de Boieldieu, même de Beethoven. Voilà ce que j'aime. En revanche, pour Wagner, cela m'endort immédiatement.
« Vous avez tort, » dit madame de Guermantes. « Avec des longueurs insupportables, Wagner avait du génie. » Lohengrin est un chef-d'œuvre. Même dans Tristan, il y a ça et là une page curieuse. Et le cœur des fileuses du vaisseau fantôme est une pure merveille.
N'est-ce pas, Babal ? Dit monsieur de Guermantes en s'adressant à monsieur de Bréauté.
Nous préférons les rendez-vous de noble compagnie se donnent tous en ce charmant séjour.
C'est délicieux. Et fra diavolo. Et la flûte enchantée, et le chalet, et les noces de Figaro, et les diamants de la couronne, voilà de la musique.
En littérature, c'est la même chose. Ainsi, j'adore Balzac, le bal de Sceaux, les Mohicans de Paris.
Ha ! Mon cher, si vous partez en guerre sur Balzac, nous ne sommes pas près d'avoir fini.
Attendez, gardez cela pour un jour où Mémé sera là.
Lui, c'est encore mieux. Il le sait par cœur. »
Irrité de l'interruption de sa femme, le duc la tint quelques instants sous le feu d'un silence menaçant. Et ses yeux de chasseur avaient l'air de deux pistolets chargés. Cependant, madame d'Arpajon avait échangé avec la princesse de Parme, sur la poésie tragique et autres, des propos qui ne me parvinrent pas distinctement, quand j'entendis celui-ci prononcé par madame d'Arpajon.
Oh, tout ce que madame voudra, je lui accorde qu'il nous fait voir le monde en lait, parce qu'il ne sait pas distinguer entre le laid et le beau, ou plutôt parce que son insupportable vanité lui fait croire que tout ce qu'il dit est beau.
Je reconnais avec votre Altesse que dans la pièce en question, il y a des choses ridicules, inintelligibles, des fautes de goût, que c'est difficile à comprendre, que cela donne à lire autant de peine que si c'était écrit en russe ou en chinois, car évidemment c'est tout excepté du français.
Mais quand on a pris cette peine, comme on en est récompensé, il y a tant d'imagination.
De ce petit discours, je n'avais pas entendu le début. Je finis par comprendre, non seulement que le poète incapable de distinguer le beau du laid était Victor Hugo, mais encore que la poésie qui donnait autant de peine à comprendre que du russe ou du chinois était « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris », pièce de la première époque du poète et qui est peut-être encore plus près de Madame des Houlières que du Victor Hugo de la légende des siècles. Loin de trouver Madame d'Arpajon ridicule, je la vis, la première de cette table si réelle, si quelconque, où je m'étais assis avec tant de déception, je la vis par les yeux de l'esprit sous ce bonnet de dentelle, d'où s'échappent les boucles blondes de longs repentirs, que portèrent Madame de Rémusat, Madame de Brolier, Madame de Saint-Aulaire, toutes les femmes si distinguées, qui, dans leurs ravissantes lettres, citent, avec tant de savoir et d'à-propos, Sophocle, Schiller et l'imitation, mais à qui les premières poésies des romantiques causaient cet effroi et cette fatigue inséparable pour ma grand-mère des derniers vers de Stéphane Mallarmé. Madame d'Arpajon aime beaucoup la poésie, dit à Madame de Guermantes la princesse de Parme, impressionnée par le ton ardent avec lequel le discours avait été prononcé. Non, elle n'y comprend absolument rien, répondit à voix basse Madame de Guermantes, qui profita de ce que Madame d'Arpajon, répondant à une objection du général de Beautreilly, était trop occupée de ses propres paroles pour entendre celle que chuchota la duchesse. Elle devient littéraire depuis qu'elle est abandonnée. Je dirai à votre Altesse que c'est moi qui porte le poids de tout ça, parce que c'est auprès de moi qu'elle vient gémir chaque fois que Bazin n'est pas allé la voir, c'est-à-dire presque tous les jours. Ce n'est tout de même pas ma faute si elle l'ennuie, et je ne peux pas le forcer à aller chez elle, quoique j'aimerais mieux qu'il lui fût un peu plus fidèle, parce que je la verrais un peu moins. Mais elle l'assomme, et ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais elle est ennuyeuse à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. Elle me donne tous les jours de tels maux de tête que je suis obligée de prendre chaque fois un cachet de pyramidon. Et tout cela parce qu'il a plu à Bazin pendant un an de me trompailler avec elle. Et avoir avec cela un valet de pied qui est amoureux d'une petite grue et qui fait des têtes si je ne demande pas à cette jeune personne de quitter un instant son fructueux trottoir pour venir prendre le thé avec moi. Oh, la vie est assommante !» conclut langoureusement la duchesse. Madame d'Arpajon assommait surtout Monsieur de Guermantes parce qu'il était depuis peu l'amant d'une autre, que j'appris être la marquise de Surgy-le-Duc. Justement, le valet de pied privé de son jour de sortie était en train de servir, et je pensais que, triste encore, il le faisait avec beaucoup de trouble, car je remarquais qu'en passant les plats à Monsieur de Châtellerault, il s'acquittait si maladroitement de sa tâche que le coude du duc se trouva cogné à plusieurs reprises le coude du servant. Le jeune duc ne se fâcha nullement contre le valet de pied, rougissant, et le regarda au contraire en riant de son œil bleu clair. La bonne humeur me sembla être, de la part du convive, une preuve de bonté. Mais l'insistance de son rire me fit croire qu'au courant de la déception du domestique, il éprouvait peut-être au contraire une joie méchante. Mais, ma chère, vous savez que ce n'est pas une découverte que vous faites en nous parlant de Victor Hugo, continua la duchesse en s'adressant cette fois à Madame d'Arpajon qu'elle venait de voir tourner la tête d'un air inquiet. N'espérez pas lancer ce débutant, tout le monde sait qu'il a du talent. Ce qui est détestable, c'est le Victor Hugo de la fin, la légende des siècles, je ne sais plus les titres. Mais les feuilles d'automne, les chants du crépuscule, c'est souvent d'un poète, d'un vrai poète. Même dans les contemplations, ajouta la duchesse, que ses interlocuteurs n'osèrent pas contredire, et pour cause.
il y a encore de jolies choses. Mais j'avoue que j'aime autant ne pas m'aventurer après le crépuscule. Et puis, dans les belles poésies de Victor Hugo, et il y en a, on rencontre souvent une idée, même une idée profonde. Et avec un sentiment juste, faisant sortir la triste pensée de toutes les forces de son intonation, la posant au-delà de sa voix et fixant devant elle un regard rêveur et charmant, la duchesse dit lentement « Tenez, la douleur est un fruit. Dieu ne le fait pas croître sur la branche trop faible encore pour le porter. Ou bien encore, les morts durent bien peu. Hélas, dans le cercueil, ils tombent en poussière moins vite qu'en nos cœurs. » Et tandis qu'un sourire désenchanté fronçait d'une gracieuse sinuosité sa bouche douloureuse, la duchesse fixa sur Madame d'Arpajon le regard rêveur de ses yeux clairs et charmants. Je commençais à les connaître, ainsi que sa voix, si lourdement traînante, si âprement savoureuse. Dans ses yeux et dans cette voix, je retrouvais beaucoup de la nature de Combray. Certes, dans l'affectation avec laquelle cette voix faisait apparaître par moments une rudesse de terroir, il y avait bien des choses. L'origine toute provinciale d'un rameau de la famille de Guermantes restait plus longtemps localisé, plus hardi, plus sauvageon, plus provoquant. Puis, l'habitude de gens vraiment distingués et de gens d'esprit, qui savent que la distinction n'est pas de parler du bout des lèvres, et aussi de nobles fraternisant plus volontiers avec leurs paysans qu'avec des bourgeois. Toute particularité que la situation de reine de Madame de Guermantes lui avait permis d'exhiber plus facilement, de faire sortir toute voile dehors. Il paraît que cette même voix existait chez des sœurs à elle qu'elle détestait, et qui, moins intelligentes et presque bourgeoisement mariées, si on peut se servir de cet adverbe, quand il s'agit d'union avec des nobles obscurs, tirés dans leur province ou à Paris, dans un faubourg Saint-Germain sans éclat, possédait aussi cette voix, mais elle avait refrainé, corrigé, adouci autant qu'elle pouvait. De même qu'il est bien rare qu'un d'entre nous ait le toupet de son originalité et ne mette pas son application à ressembler aux modèles les plus vantés. Mais Oriane était tellement plus intelligente, tellement plus riche, surtout tellement plus à la mode que ses sœurs. Elle avait si bien, comme princesse des Laumes, fait la pluie et le beau temps auprès du prince de Galles, qu'elle avait compris que cette voix discordante, c'était un charme, et qu'elle en avait fait, dans l'ordre du monde, avec l'audace de l'originalité et du succès, ce que, dans l'ordre du théâtre, une Réjeanne, une Jeanne Granier, sans comparaison du reste naturellement entre la valeur et le talent de ces deux artistes, ont fait de la leur quelque chose d'admirable et de distinctif que peut-être des sœurs Réjeanne et Granier, que personne n'a jamais connues, essayèrent de masquer comme un défaut. À tant de raisons de déployer son originalité locale, les écrivains préférés de Madame de Guermantes, Mérimée, Meillac et Halévy, étaient venus ajouter, avec le respect du naturel, un désir de prosaïsme par où elle atteignait à la poésie et un esprit purement de société qui ressuscitait devant moi des paysages. D'ailleurs, la duchesse était fort capable, ajoutant à ses influences une recherche artiste, d'avoir choisi pour la plupart des mots la prononciation qui lui semblait le plus Île-de-France, le plus champenoise, puisque, sinon tout à fait au degré de sa belle-sœur Marsante, elle n'usait guère que du pur vocabulaire dont eût pu se servir un vieil auteur français. Et quand on était fatigué du composite et bigarré langage moderne, c'était, tout en sachant qu'elle exprimait bien moins de choses, un grand repos d'écouter la causerie de Madame de Guermantes. Presque le même si l'on était seul avec elle et qu'elle restreignit et clarifiât encore son flot, que celui qu'on éprouve à entendre une vieille chanson.
Alors, en regardant, en écoutant Madame de Guermantes, je voyais, prisonnier dans la perpétuelle et quiète après-midi de ses yeux, un ciel d'Île-de-France ou de Champagne, se tendre, bleuâtre, oblique, avec le même angle d'inclinaison qu'il avait chez Saint-Loup. Ainsi, par ses diverses formations, Madame de Guermantes exprimait à la fois la plus ancienne France aristocratique, puis, beaucoup plus tard, la façon dont la duchesse de Broglier aurait pu goûter et blâmer Victor Hugo sous la monarchie de Juillet. Enfin, un vif goût de la littérature, issu de Mérimée et de Meillac. La première de ces formations me plaisait mieux que la seconde, m'aidait davantage à réparer la déception du voyage et de l'arrivée dans ce faubourg Saint-Germain, si différent de ce que j'avais cru, mais je préférais encore la seconde à la troisième. Or, tandis que Madame de Guermantes était Guermantes presque sans le vouloir, son pas-huronisme, son goût pour Dumas fils, était réfléchi et voulu. Comme ce goût était à l'opposé du mien, elle fournissait à mon esprit de la littérature quand elle me parlait du faubourg Saint-Germain, et ne me paraissait jamais si stupidement faubourg Saint-Germain que quand elle me parlait littérature. Émue par les derniers vers, Madame d'Arpajon s'écria « Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Monsieur, il faudra que vous m'écriviez cela sur mon éventail, » dit-elle à Monsieur de Guermantes. « Pauvre femme, elle me fait de la peine, » dit la princesse de Parme à Madame de Guermantes. « Non, que madame ne s'attendrisse pas, elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais, pardon de vous dire cela à vous, cependant, elle l'aime vraiment. Mais pas du tout, elle en est incapable. Elle croit qu'elle l'aime comme elle croit en ce moment qu'elle cite du Victor Hugo, parce qu'elle dit un vers de Musset. Tenez, » ajouta la duchesse sur un ton mélancolique, « personne plus que moi ne serait touché par un sentiment vrai. Mais je vais vous donner un exemple. Hier, elle a fait une scène terrible à Bazin. Votre Altesse croit peut-être que c'était parce qu'il en aime d'autres, parce qu'il ne l'aime plus. Pas du tout. C'était parce qu'il ne veut pas présenter ses fils au jockey. Madame, trouve-t-elle que ce soit d'une amoureuse? Non, je vous dirai plus, » ajouta Madame de Guermantes avec précision. « C'est une personne d'une rare insensibilité. » Cependant, c'est l'œil brillant de satisfaction que M. de Guermantes avait écouté sa femme parler de Victor Hugo à brûle-pourpoint et en citer ses quelques vers. La duchesse avait beau l'agacer souvent. Dans des moments comme ceux-ci, il était fier d'elle. « Oh, rien n'est vraiment extraordinaire. Elle peut parler de tout. Elle a tout lu. Elle ne pouvait pas deviner que la conversation tomberait ce soir sur Victor Hugo. » Sur quelque sujet qu'on l'entreprenne, elle est prête, elle peut tenir tête au plus savant. Ce jeune homme doit être subjugué. Mais changeons de conversation, ajouta Madame de Guermantes, parce qu'elle est très susceptible, vous devez me trouver bien démodée, reprit-elle en s'adressant à moi. Je sais qu'aujourd'hui c'est considéré comme une faiblesse d'aimer les idées en poésie, la poésie où il y a une pensée. « C'est démodé ?» dit la princesse de Parme avec le léger saisissement que lui causait cette vague nouvelle à laquelle elle ne s'attendait pas, bien qu'elle sût que la conversation de la duchesse de Guermantes lui réserva toujours ces chocs successifs et délicieux, cet essoufflant effroi, cette saine fatigue, après lesquelles elle pensait instinctivement à la nécessité de prendre un bain de pied dans une cabine et de marcher vite pour faire la réaction. « Pour ma part, non, Oriane, » dit Madame de Brissac. « Je n'en veux pas à Victor Hugo d'avoir des idées, bien au contraire, mais de les chercher dans ce qui est monstrueux. Au fond, c'est lui qui nous a habitués au lait en littérature. Il y a déjà bien assez de laideurs dans la vie. Pourquoi au moins ne pas les oublier pendant que nous lisons ? Un spectacle pénible dont nous nous détournerions dans la vie, voilà ce qui attire Victor Hugo. »
Victor Hugo n'est pas aussi réaliste que Zola, tout de même ?
Demanda la princesse de Parme. Le nom de Zola ne fit pas bouger un muscle dans le visage de Monsieur de Beautry. L'anti-dreyfusisme du général était trop profond pour qu'il cherchât à l'exprimer. Et son silence bienveillant, quand on abordait ces sujets, touchait les profanes par la même délicatesse qu'un prêtre montre en évitant de vous parler de vos devoirs religieux, un financier en s'appliquant à ne pas recommander les affaires qu'il dirige, un Hercule en se montrant doux et en ne vous donnant pas de coups de poing.
« Je sais que vous êtes parent de l'amiral Jurien de la Gravière, »
me dit d'un air entendu Madame de Varambon, la dame d'honneur de la princesse de Parme, femme excellente mais bornée, procurée à la princesse de Parme jadis par la mère du duc. Elle ne m'avait pas encore adressé la parole, et je ne pus jamais dans la suite, malgré les admonestations de la princesse de Parme et mes propres protestations, lui ôter de l'esprit l'idée que je n'avais quoi que ce fût à voir avec l'amiral académicien, lequel m'était totalement inconnu. L'obstination de la dame d'honneur de la princesse de Parme à voir en moi un neveu de l'amiral Jurien de la Gravière avait en soi quelque chose de vulgairement risible. Mais l'erreur qu'elle commettait n'était que le type excessif et desséché de tant d'erreurs plus légères, mieux nuancées, involontaires ou voulues, qui accompagnent notre nom dans la fiche que le monde établit relativement à nous. Je me souviens qu'un ami des Guermantes, ayant vivement manifesté son désir de me connaître, me donna comme raison que je connaissais très bien sa cousine, Madame de Chaussegros. Elle est charmante et elle vous aime beaucoup. Je me fis un scrupule bien vain d'insister sur le fait qu'il y avait erreur, que je ne connaissais pas Madame de Chaussegros. Alors, c'est sa sœur que vous connaissez, c'est la même chose. Elle vous a rencontré en Écosse. Je n'étais jamais allé en Écosse et pris la peine inutile d'en avertir, par honnêteté, mon interlocuteur. C'était Madame de Chaussegros elle-même qui avait dit me connaître, et le croyait sans doute de bonne foi, à la suite d'une confusion première, car elle ne cessa jamais plus de me tendre la main quand elle m'apercevait. Et comme, en somme, le milieu que je fréquentais était exactement celui de Madame de Chaussegros, mon humilité ne rimait à rien. Que je fusse intime avec les Chaussegros était littéralement une erreur. Mais, au point de vue social, un équivalent de ma situation, si on peut parler de situation pour un aussi jeune homme que j'étais. L'ami des Guermantes eut donc beau ne me dire que des choses fausses sur moi, il ne me rabaissa ni ne me suréleva, au point de vue mondain, dans l'idée qu'il continua à se faire de moi. Et, somme toute, pour ceux qui ne jouent pas la comédie, l'ennui de vivre toujours dans le même personnage est dissipé un instant, comme si l'on montait sur les planches, quand une autre personne se fait de vous une idée fausse, croit que nous sommes liés avec une dame que nous ne connaissons pas et que nous sommes notés pour avoir connue au cours d'un charmant voyage que nous n'avons jamais fait. Erreur multiplicatrice et aimable, quand elles n'ont pas l'inflexible rigidité de celle que commettait et commis toute sa vie, malgré mes dénégations, l'imbécile dame d'honneur de Madame de Parme, fixée pour toujours à la croyance que j'étais parent de l'ennuyeux amiral Jurien de la Gravière. « Elle n'est pas très forte, » me dit le duc. « Et puis il ne lui faut pas trop de libations. Je la crois légèrement sous l'influence de Bacchus. » En réalité, Madame de Varambon n'avait bu que de l'eau. Mais le duc aimait à placer ses locutions favorites. « Mais Zola n'est pas un réaliste, madame, c'est un poète !» dit Madame de Guermantes, s'inspirant des études critiques qu'elle avait lues dans ces dernières années et les adaptant à son génie personnel. Agréablement bousculée jusqu'ici, au cours du bain d'esprit, un bain agité pour elle, qu'elle prenait ce soir, et qu'elle jugeait devoir lui être particulièrement salutaire, se laissant porter par les paradoxes qui déferlaient l'un après l'autre, devant celui-ci, plus énorme que les autres, la princesse de Parme sauta par peur d'être renversée. Et ce fut d'une voix entrecoupée, comme si elle perdait sa respiration, qu'elle dit « Cela, un poète ?»« Mais oui !» répondit en riant la duchesse, ravie par cet effet de suffocation. « Que votre Altesse remarque comme il grandit tout ce qu'il touche. Vous me direz qu'il ne touche justement qu'à ce qui porte bonheur. Mais il en fait quelque chose d'immense. Il a le fumier épique. C'est l'Homère de la vidange. Il n'a pas assez de majuscules pour écrire le mot de Cambronne. » Malgré l'extrême fatigue qu'elle commençait à éprouver, la princesse était ravie. Jamais elle ne s'était sentie mieux. Elle n'aurait pas échangé contre un séjour à Schönbrunn, la seule chose pourtant qui la flatta, ces divins dîners de Madame de Guermantes, rendus tonifiants par tant de sel. « Il l'écrit avec un grand C !» s'écria Madame d'Arpajon. « Plutôt avec un grand M, je pense, ma petite !» répondit Madame de Guermantes, non sans avoir échangé avec son mari un regard gai qui voulait dire « Est-elle assez idiote